Radio Kapi. Oh, Kapi.
Au sommaire de ce journal vespéral, les Nations Unies s'engagent à soutenir le processus de cantonnement des éléments du M23 et celui du programme de désarmement et réinsertion communautaire et sociale des groupes armés à l'est de la RDC. C'est ce qu'a déclaré ce mercredi à Kinshasa le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix. Vous l'entendrez en début de ce journal. Dans la province de la Tchopo, la 31e région militaire engage une lutte sans merci contre les véhicules dépourvus de plaques minéralogiques et ceux à vitres fumées. Trois jours après le déclenchement de cette opération, plus de 50 véhicules sont déjà saisis. L'invité de ce journal est la ministre provinciale en charge de la santé et affaires humanitaires de la province de la Tchopo. Bernadette Foura parle des sinistrés, des inondations et des déplacés, des conflits intercommunautaires qui ont besoin d'une assistance humanitaire pour leur survie. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dernier jour de la visite du secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge d'opérations de maintien de la paix. Ce mercredi, Jean-Pierre Lacroix a rencontré les délégués de la classe politique congolaise, ceux de la majorité ainsi que ceux de l'opposition. Il a par ailleurs animé une conférence de presse au cours de laquelle il a répondu aux diverses questions des journalistes. S'agissant des questions relatives au cantonnement des éléments du M23, il a précisé que les Nations Unies s'engagent pour soutenir ce processus et celui du programme de désarmement et réinsertion communautaire et sociale. Des RCS, des groupes armés à l'est du pays. Jean-Pierre Lacroix, on l'écoute.
Nous avons beaucoup travaillé pour nous engager à soutenir le projet de pré-cantonnement et de cantonnement des éléments du M23. Il en a été question dans nos discussions avec les autorités. Nous avons aussi discuté de ces questions avec les autorités angolaises, où je me suis rendu, avec lesquels je me suis entretenu à Luanda, et c'est également le cas de la représentante spéciale Bintou Keïta récemment. Nous sommes engagés à soutenir ce processus de pré-cantonnement et de cantonnement avec nos efforts politiques et aussi avec notre soutien en matière logistique. De même, nous sommes déterminés à soutenir et à faire un plaidoyer pour que avance de manière plus rapide le processus de désarmement dans le cadre du PDDRCS. Il y a un besoin de ressources, mais il y a besoin aussi d'agir vite, là où les conditions peuvent être réunies pour que ce désarmement intervienne rapidement. Et c'est le cas notamment en Ituri. Potentiellement, c'est le cas à la suite de l'accord qui a été agréé entre différents groupes armés, ce qu'on appelle le processus d'Aro. Donc saisir l'opportunité et faire en sorte que ça se fasse le plus rapidement possible.
Et puis, le processus électoral en cours et la question du désarmement de la MONUSCO au menu des rencontres ce mercredi à Kinshasa entre Jean-Pierre Lacroix et la classe politique congolaise. En effet, le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix s'est entretenu avec des délégués de la majorité au pouvoir, mais également avec ceux de l'opposition politique. Pour l'opposition politique, le processus électoral en cours ne rassure pas. Au dire de Raymond Tshibanda, cadre du Front commun pour le Congo, tout est biaisé. On ne peut pas avoir dans un processus une des parties à la compétition qui contrôle, de la CENI à la Cour constitutionnelle. Pour Raymond Tshibanda, il y a un degré inacceptable de corruption de ce processus. On l'écoute.
Nous avons rappelé les conditions qui nous paraissent essentielles. Il faut qu'il y ait un minimum de sécurité qui soit rétabli dans l'Est. Il faut que la CENI soit restructurée pour refléter la diversité du champ politique congolais et se conformer à la loi. Il faut que la Cour constitutionnel, mais aussi les cours d'appel, qui sont censés connaître de contentieux électoraux, puissent être structurés conformément aux lois pertinentes. On ne peut pas avoir un processus électoral dans lequel une des parties en compétition contrôle tout de A à Z, de la CENI à la Cour constitutionnelle. Nous savons qui sont là, qui les a placés à tous les niveaux. On ne prépare pas des élections dans ces conditions-là. Vous constatez vous-même qu'aujourd'hui, il y a une quasi-unanimité au niveau de toutes les forces de l'opposition et même une large partie de la société civile sur le degré inacceptable de corruption de ce processus électoral.
Mais de son côté, le député national Roger Mwamba Mac Benza secrétaire général des ACO Avenir du Congo, parti politique membre de l'Union sacrée de la République. Outre la question de la restauration de l'autorité de l'État dans les zones où la MONUSCO va se désengager, le pouvoir rassure que les élections seront organisées dans de bonnes conditions. Roger Mwamba Makbenza.
La MONUSCO rentre maintenant dans une phase de transition pour les désengagements. Nous lui avons fait voir nos observations. Lui, le secrétaire général adjoint, a beaucoup plus insisté sur la présence de l'État là où ils vont se désengager pour la protection des civils. Bien aussi, nous avons abordé le processus électoral en cours et nous lui avons rassuré que les élections seront inclusives, transparentes et ça va se passer dans de bonnes conditions, nonobstant les défis logistiques qui est énorme pour l'organisation des élections en République démocratique du Congo.
Ce dossier porte la signature de Jacques-Yves Molima. En Ituri, les groupes armés FRPI, FPIC, CODECO et MAPI ont remis officiellement hier mardi à Bunia, au gouverneur de province, le protocole d'accord sur la paix, la sécurité et la cohésion sociale signé la semaine dernière à Arou. C'était devant plusieurs autorités de la province et toutes les notabilités des cinq territoires de l'Ituri. Tous ces leaders des groupes armés s'engagent notamment à mettre fin aux hostilités et à respecter les instruments juridiques nationaux et internationaux. Le gouverneur a mis en garde les tireurs de ficelles et les miliciens réfractaires qui seront poursuivis par la justice. Martial Kizabiamungu pour plus de détails.
C'est une étape décisive que l'Ituri vient de franchir dans la recherche de la paix, affirment les observateurs à cette activité. Dans leur protocole d'accord de paix, de la sécurité et de la cohésion sociale, ces quatre groupes armés actifs à l'Ituri sont plus que déterminés de mettre fin à la guerre et aux tueries des civils. L'un de leurs porte-parole résume l'essentiel de leur accord assorti des travaux tenus à Arou du 26 mai au 1er juin.
Faciliter la libre circulation des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue de la province de l'Ituri. Ne plus circuler avec les armes et ne plus porter les indices militaires et policiers.
Le gouverneur des provinces, le lieutenant général Johnny Luboya Kanchama, tout en félicitant ces jeunes pour leur courage, a mis à garde les tireurs de ficelles qui les manipulent pour entraver les processus de paix.
Chers jeunes, n'ayez pas peur. Les noms que vous avez donnés, donnez davantage de précision. Nous sommes là pour vous écouter. D'ailleurs, nous avons déjà d'autres informations.
Le gouverneur demande à tous ces jeunes d'intégrer le site de démobilisation qui est déjà opérationnel, les Diango, à une dizaine de kilomètres de Bunia pour déposer les armes. Bunia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Nous demandons au gouvernement d'encadrer tous ces jeunes qui se sont engagés pour la paix pour que leurs souhaits soient exécutés. C'est ce qu'a déclaré le coordonnateur de la société civile de l'Ituri hier mardi au cours de la cérémonie des remises au gouverneur de province ce protocole. Selon ce coordonnateur, cet engagement doit être le dernier après l'accord de Nairobi et celui de cessation unilatérale des hostilités. Les membres des groupes armés signataires qui ne respecteront pas leur acte d'engagement doivent être arrêtés et poursuivis par la justice, ajoute-t-il. Dédoné Lossa est au micro de Martial Kizabiamungu.
Nous ne sommes pas pour la première fois ici où nous assistons à ces heures de cérémonie. Vous êtes tous témoins. Mais nous voudrions bien que ce soit pour la dernière fois parce que tous les jours, on ne peut pas revenir sur la même chose. On signe l'acte de cessation des hostilités au même moment au rivier. Parce que cela doit s'arrêter. Et pour que ça s'arrête, on a également besoin de l'encadrement du gouvernement. On n'a pas sati l'État pendant que les gens n'ont pas respecté leur propre engagement, venir avec force. Nous demandons cette fois-ci que tous ceux-là qui vont aller à la contre de leur propre engagement puissent être poursuivis par l'État. Aujourd'hui, nous sommes ici en train de réceptionner, n'est-ce pas, les faits de route, mais il y en a qui à terre maintenant, les gens qui ont été tués aujourd'hui par les groupes armés. Ces gens-là doivent être arrêtés et déférés devant la justice. C'est ce que nous attendons comme encadrement de l'État congolais à ces processus.
Dans la province de la Tchopo, la 31e région militaire engage une lutte sans merci contre les véhicules dépourvus de plaques minéralogiques et ceux à vitres fumées. Trois jours après le déclenchement de cette opération dénommée « Zéro véhicule sans plaque » d'immatriculation en circulation dans la ville de Kisangani, plus de 50 véhicules sont déjà saisis. Ils sont mis à la fourrière au service de renseignement militaire. Le point avec Jacques Moukonkolé.
L'opération « Zéro véhicule sans plaque d'immatriculation en circulation dans la ville » tire sa légitimité de l'arrêté de Madame le gouverneur de province du 28 avril dernier, lequel interdit non seulement la circulation des véhicules sans plaque, mais aussi ceux à vitres fumées. Selon le service de renseignement militaire, la gouverneure de province a instruit les commandants de la 31e région militaire, le général-major Timothée Mujinga, pour l'application stricte de cette disposition. L'objectif visé est de lutter contre la criminalité dans la ville de Kisangani et son interland. Des véhicules saisis figurent ceux d'un avocat et d'un conseiller de l'autorité provinciale, comme pour dire que cette disposition réglementaire est opposable à tout le monde, sans exception. Par ailleurs, l'officier de renseignement militaire précise que le retrait de tout engin saisi est conditionné par le paiement de la plaque d'immatriculation à la direction provinciale des impôts. Une fois présentés ces documents, le propriétaire du véhicule signe le procès verbal de retrait et récupère immédiatement son engin. Aucune pénalité ou tout autre frais n'est lui exigé. Et de souligner que cette opération se poursuivra jusqu'à ce qu'il n'y aura plus aucun véhicule sans plaque ni vitre fumée en circulation dans la ville de Kisangani. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Dans la province de l'Équateur, les enseignants continuent à vivre le calvaire. Ils totalisent à ce jour 4 mois d'arriérés de salaire. Conséquence, la plupart de leurs enfants n'ont pas pu participer aux épreuves hors session de l'examen d'État, édition 2023. Présentement, d'autres ne sont pas admis aux examens de fin d'année, au secondaire, soit aux épreuves de mi-session dans les établissements d'enseignement supérieur et universitaire. La situation concerne notamment les fonctionnaires et enseignants de Bassankoussou, Bolomba, Makanza, Bikoro, Lukolela et Yumbi, lesquels sont payés par l'institution financière pour les œuvres de développement IFOD, la Banque catholique et la Caritas. Le député provincial élu de Bolomba, Peter Lopossé, dénonce cette discrimination. Il est au micro de Paul-Richard Malengela.
La fois passée, on était passé ici pour présenter la même situation. Trois jours après, on a payé les gens. Est-ce que pour payer les gens, il faut des pressions? Non. Le salaire a un caractère alimentaire, inaliénable, c'est-à-dire le salaire doit être permanent à la date fixée par la loi. Ce n'est pas une faveur, c'est un droit. Aujourd'hui, je tiens à interpeller les autorités nationales, le premier ministre qui est le chef du gouvernement, le ministre du budget, le ministre des finances et celui de l'EPST, afin qu'ils puissent s'impliquer pour décanter la situation de la vie sociale de mon territoire. C'est parce qu'on ne peut pas préjudicier une catégorie déjà et privilégier une autre. Je demande que les autorités qui me suivent, même le comité national de suivi des payes, de s'impliquer que les territoires de Bolomba, Makanja, Bassankoussou, les fonctionnaires et les enseignants ne sont pas payés mensuellement. Si les enseignants ne seront pas payés après ma déclaration, les députés qui sont au niveau national, je vais les contacter. Parce qu'après la déclaration, les autorités vont payer les enseignants de Bolomba. Sinon, ça sera une tentative de détournement.
Pour les enseignants de Mbandaka, qui accusent à ce jour 3 mois d'arriérés de salaire, l'abbé coordinateur de la Caritas Mbandaka Bikoro a récemment indiqué que l'IFOD ne reçoit pas les fonds du gouvernement à temps. Une pénurie d'eau perdure dans la commune de Lemba, précisément dans les quartiers Salongo et Rigini depuis une dizaine d'années. Ce phénomène est devenu un mode de vie pour les habitants qui occupent ces quartiers. La régie des eaux semble inexistante dans cette partie de la ville. Les détails avec Jemima Mbuyulu.
Cela fait pratiquement 12 ans que les habitants de plusieurs avenues de ces quartiers vivent sans l'eau de la régie des eaux. Il s'agit notamment des avenues Mousswalou, Biangala, Mulumbakachi, Kiko et autres. Ils se sont plaints plusieurs fois mais sans succès. Leur robinet est sec depuis 2010. Ils ne vivent que de l'eau de forage comme le témoigne cet habitant.
À l'époque, tous les soirs et tous les matins, nous avions de l'eau. Depuis 2010-2011, on n'a plus rien recyclé. Les amis qui ont des forages nous permettent de vivre, mais la régie des eaux est quasi inexistante dans notre quartier.
Le directeur provincial de la régie des eaux explique que pour desservir l'ensemble de ces deux quartiers, il faudrait que l'usine qui les alimente fonctionne de façon continue de 8 à 10 heures du temps, ce qui n'est pas le cas actuellement. Raymond Matundu assure que l'entreprise fait tout pour y remédier au plus vite.
Et pour que Rigini et Salongo puissent avoir de l'eau, nous avons deux stations de repompage. Il faut que l'eau arrive d'abord au niveau de station de repompage et à partir de là, on dessert maintenant nos abonnés qui sont sur de parties hautes, notamment Rigny et Salon. Ce n'est pas que nous faisons ça sciemment, mais la revue des eaux est consciente de cette situation. Nous sommes en train de rassembler ce qu'il faut comme matériel pour résoudre ces problèmes-là de monde.
Les habitants sont donc appelés à prendre leur mal en patience.
Actualité internationale.
Au Mali, les anciens rebelles maintiennent leur opposition au référendum constitutionnel. Les autorités de transition ont annoncé un vote le 18 juin. Il sera organisé partout, sauf dans certaines zones du nord contrôlées par les groupes armés signataires de l'accord de paix de 2015, notamment Kidal et Menaka. L'Algérie, la Sierra Leone, le Guyana et la Corée du Sud ont été élus hier mardi sans concurrent pour siéger au Conseil de sécurité de l'ONU en 2024-2025, tandis que la Slovénie a battu largement les Bélarus pour le seul siège disputé.
L'invité
de ce journal est le ministre provincial en charge de la santé et affaires humanitaires de la province de la Tchopo. Bernadette Foura parle des sinistrés des inondations et des déplacés des conflits intercommunautaires qui ont besoin d'une assistance humanitaire pour leur survie. Bernadette Foura s'entretient avec Jacques Moukonkoli.
Madame Bernadette Foura, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Une réunion qui vient de se tenir tout à l'heure avec les humanitaires, OCHA en tête, OMS, UNICEF, la société civile santé et des autres. En quoi a consisté cette rencontre?
Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Cette rencontre consiste à pouvoir valider les données parce que nous avons vu que si nous continuons à travailler à vase clos, ne permettra pas à ce que les partenaires viennent en appui. Et c'est pourquoi, par les canards de son Excellence, Madame la gouverneure de province, nous avons convoqué cette réunion pour mobiliser les partenaires et à venir en aide aux victimes d'abord des inondations d'Isangi, des victimes des conflits opposant les deux communautés Mbole et Lengola.
Et quelles sont les données que vous avez validées?
Et aujourd'hui, nous avons validé les données des populations déplacées, 339 294 et 49 273 personnes retournées dans leur case suite au message de mobilisation, au message de paix que nous avons mené sur terrain dans les deux tronçons Ubundu et Opala.
Et pourquoi les autres hésitent encore à rentrer? Encore un grand nombre qui restent sur place à Kisangani.
Non, il y en a d'autres dont leurs maisons ont été incendiées et dont le gouvernement provincial continue à mobiliser des ressources pour venir en aide à toute cette population. Et ceux qui sont rentrés, ils ont trouvé leur maison n'était pas incendiée.
On a parlé dernièrement du service de génie militaire ou génie de la police qui devait procéder à la réhabilitation de ces maisons-là. Est-ce que cette opération de réhabilitation a déjà commencé?
Non, cette opération n'a pas encore commencé, mais je sais que le gouvernement est à pied d'œuvre pour pouvoir commencer déjà cette activité.
Au niveau humanitaire, vous vous êtes réunis, vous avez validé les données. À quand l'intervention sur le terrain?
Je crois que demain, il y aura remise officielle des intrants au niveau du ministère des Actions humanitaires. Je crois que tous ces matériels, les intrants seront remis ici pour que la descente commence déjà au niveau du site.
Quand vous parlez de intrants, à quoi faites-vous allusion exactement?
Il y a des bidons, il y a des bâches, il y a des moustiquaires, il y a de quoi, wash, il y a aussi beaucoup de jerrycans qu'on amène. Pour que on sait que la population est vraiment maîtrisée, la population vraiment est à la merci de toutes les intempéries. Alors par conséquent, ce que nous allons amener va résoudre le tant soit peu les problèmes de la population, les difficultés qu'ils connaissent au niveau de leurs milieux respectifs.
Est-ce que on peut savoir d'où ça vient, qui vous a apporté cet appui? Cette assistance?
Et d'abord, nous avons commencé par le gouvernement provincial. Le gouvernement provincial a mobilisé aussi ses moyens. Et il y a d'autres moyens qui nous viennent des partenaires, UNICEF, OMS, SANRU, donc à Peke. Ils nous ont amené plus de 1000 moustiquaires. Mais ici, nous voyons, OMS nous a amené 4 tonnes des intrants.
Est-ce qu'on peut dire que les besoins de déplacer seront quand même couverts ou c'est un soulagement? Il y a encore beaucoup à faire peut-être?
Messieurs les journalistes, je crois que c'est un processus. Quand les choses commencent, ça doit continuer. Et ce que nous avons amené, quand je dis nous avons amené, c'est le gouvernement provincial et les partenaires peuvent encore couvrir un peu le besoin urgent. Les besoins urgents, on doit quand même faire quelque chose. Mais le processus continue parce que, comme je l'ai dit au début, il y aura. Vous avez posé la question de savoir si les maisons seront construites. Effectivement, ce n'est pas aujourd'hui ni demain, mais on doit quand même savoir un peu faire quelque chose de très précaire pour que la population puisse regagner leur milieu d'origine. Et il y a aussi, comme on a dit, le problème de l'alimentation. Ça pose problème. Aujourd'hui, tous les villages du côté des territoires ont été inondés. Et c'est pourquoi nous avons invité OCHA pour qu'ils fassent des centres sur terrain avec les autres partenaires, voir de quelle manière ils peuvent revenir, ils peuvent appuyer les communautés qui sont mises.
Madame la ministre en charge de la santé, affaires humanitaires dans la Tchopo, merci.
C'est à moi plutôt de vous remercier, messieurs les journalistes.
C'était l'invité de ce journal, le ministre provincial chargé de la santé et affaires humanitaires dans la province de la Tchopo, Bernadette Foura, s'entretenait à Kisangani avec Jacques Moukonkolé. Fin de ce journal, merci de continuer à le réécouter sur toutes les plateformes digitales de Radio Okapi.